30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'Afrique, le monde aujourd'hui, édition du mardi 17 juin 2014. Chez Ruben Orsillé, Morgane Guiriec en votre compagnie. Au sommaire ce soir,
une deuxième attaque des islamistes d'Al-Shabaab au Kenya fait au moins 15 morts.
En RCA, nouveau commandement à la tête de l'opération Sangaris.
Beaucoup reste à faire pour aider nos amis centrafricains. Le général Bello des Minières a toute notre confiance.
Clément Bollé, un des commandants de la mission française en Centrafrique.
La prise de plusieurs villes du nord de l'Irak par les djihadistes sunnites va-t-elle occasionner un rapprochement entre Washington et Téhéran ? Suivez notre analyse.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, le Nigeria arrache un nul décevant face à l'Iran. Les États-Unis jubilent après un triomphe in extremis sur le Ghana et l'Algérie entre en lice aujourd'hui.
Les Algériens nourriront longtemps des regrets sur la pelouse de Belo Horizonte à l'Estadio Mineirao après cette défaite 2-1 face à la Belgique.
Et l'on pourrait connaître aujourd'hui le premier qualifié pour le prochain tour, soit le Brésil, soit le Mexique qui s'affrontent maintenant à Fortaleza.
Mais tout d'abord, le journal.
Le président kényan Uhuru Kenyatta affirme que les islamistes somaliens ne sont pas les auteurs des attaques qui viennent de frapper la ville de Mpeketoni et qui ont fait plus de 60 morts en deux jours. Jean-Roger Bion.
Le président kényan a créé la surprise à l'occasion d'une adresse à la nation ce mardi. Uhuru Kenyatta a accusé des réseaux politiques locaux d'être à l'origine des attaques de Mpeketoni.
Was well planned, orchestrated and politically motivated ethnic violence against the Kenyan community.
Ces attaques ont été bien planifiées et sont politiquement motivées contre les Kenyans avec l'intention de les diviser et de les exclure pour des raisons politiques. Ce n'était donc pas une attaque terroriste d'Al-Shabaab. Les preuves indiquent que les réseaux politiques locaux ont été impliqués dans la planification et l'exécution de ce crime odieux. Le groupe islamiste Al-Shabaab a pourtant revendiqué la responsabilité des attentats qui ont fait quelques 50 morts à Mpeketoni dimanche et au moins 15 autres victimes dans un village voisin lundi. Les États-Unis ont qualifié les attaques d'odieuses et les ont condamnées dans les termes les plus vigoureux.
Au Nigeria, l'armée a annoncé l'arrestation de plus de 450 personnes qui voyageaient entre le nord et le sud du pays. Elles seraient, selon la presse locale, soupçonnées de liens avec le groupe islamiste Boko Haram. Bagasikoura.
Oui, selon le général Olajide Laleye, porte-parole de l'armée, 462 personnes, dont 8 femmes, ont été arrêtées dans l'état d'Abia, dans le sud, hier matin. Selon lui, ils étaient à bord de 36 autocars et voyageaient entre les états de Bauchi et Jigawa, dans le nord, vers la ville de Port Harcourt, au sud, d'après l'AFP qui révèle cette information. Le général Laleye n'a pas voulu se prononcer sur le motif des arrestations avant la fin des enquêtes, mais la presse nigériane cite plusieurs hommes politiques du sud du pays pour qui ces nouvelles arrestations massives sont en relation avec Boko Haram, dont l'insurrection sanglante a fait plusieurs milliers de morts ces 5 dernières années.
En République centrafricaine, un nouveau commandement à la tête de l'opération Sangaris, le général Francisco Soriano, a passé la main aujourd'hui au général de brigade Bello des Minières. Le point avec Idriss Fall.
6 mois après le lancement de l'opération Sangaris, le général de brigade Bello des Minières a pris le relais à la tête des forces françaises en Centrafrique. Il a remplacé le général Francisco Soriano. La passation de service s'est déroulée ce matin à la base militaire Mpoko, près de l'aéroport de Bangui, en présence du premier ministre André Nzapa Yeke. Pour Clément Bollé, commandant des forces terrestres, l'heure n'est pas au bilan de Sangaris car beaucoup reste à faire.
Si tant a été fait sous son impulsion, l'heure n'est toutefois pas au bilan, mais à l'impérieuse continuité. Beaucoup reste à faire pour aider nos amis centrafricains à retrouver la paix à laquelle ils aspirent. Expérimenté, bien préparé à cette mission exigeante, le général Bello des Minières a toute notre confiance. Accordez-lui la vôtre.
Lancée en décembre 2013, l'opération Sangaris devrait se terminer en septembre prochain avec l'arrivée des casques bleus de l'ONU.
La fièvre hémorragique Ebola se propage au Libéria avec de nouveaux cas signalés à Monrovia, la capitale. Le point avec Nathalie Barge.
7 personnes sont mortes dans la capitale libérienne, dont 4 confirmées porteuses du virus de l'Ebola. Selon le vice-ministre de la Santé, Tolbert Nienswa, Cela porte à 16 le nombre total de décès dans ce pays. Pourtant, depuis 2 mois, aucun nouveau cas suspect n'avait été signalé au Libéria. L'une des dernières victimes s'était rendue récemment dans une zone touchée par la maladie en Sierra Leone voisine. Amara Jambai du ministère Sierra Leonais de la Santé a donné un dernier bilan de 20 morts. Cela représente une hausse malgré l'état d'urgence déclaré dans une région touchée par l'épidémie. La fièvre hémorragique Ebola est apparue en Guinée forestière en début de l'année et selon l'OMS, elle a jusqu'ici fait près de 250 victimes dans la sous-région.
Le Soudan accusé d'avoir bombardé un hôpital dans le Kordofan méridional. Médecins sans frontières affirment que 2 bombes ont frappé le centre hospitalier hier lors d'un raid aérien sur le village de Farandala. MSF compte 5 blessés dans le village ainsi que membres de son personnel à l'hôpital. La salle d'urgence, la pharmacie et la cuisine de l'hôpital ont été détruites. Les autorités soudanaises n'ont pas répondu à ces accusations.
Conflit au Darfour, la Cour pénale internationale demande à l'ONU d'enquêter sur la MINUAD. La mission conjointe ONU-Union africaine est accusée de minimiser les exactions commises par les forces soudanaises au Darfour.
Bien Malaki, Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, ne sera pas jugé en France. La plainte déposée en France par l'État sénégalais pour détournement de fonds publics a été classée sans suite par le parquet financier. C'est ce qu'ont fait savoir les avocats de Karim Wade, cités par l'AFP. En revanche, son procès au Sénégal débutera à partir du 31 juillet.
Présidentielle mauritanienne, le porte-parole du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, accuse l'opposition d'acheter des cartes d'électeurs pour qu'ils n'aillent pas voter. C'est ce qu'indique l'AFP. En face, l'opposition dénonce la légèreté de ses accusations et appelle à boycotter le scrutin de samedi.
Du nouveau sur l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en Libye, les États-Unis ont arrêté un suspect clé lié à l'assaut du 11 septembre 2012. Des soldats américains, en coopération avec la police, ont capturé Ahmed Abu Khatala, a précisé le porte-parole du Pentagone. Dans un autre développement, selon l'AFP, l'armée libyenne a interdit la circulation d'automobiles de minuit à 6h du matin pour tenter de réduire les violences à Benghazi. Benghazi est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les islamistes et les forces du général dissident Khalifa Haftar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Genève, aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a condamné les actions récentes en Irak des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Lionel Gaïma.
Ban Ki-moon a d'abord demandé au premier ministre Nouri al-Maliki de repenser sa gouvernance pour calmer les tensions communautaires. Il a exprimé son inquiétude face à la dégradation rapide de la situation. Il a condamné les attaques, meurtres de civils et le kidnapping de diplomates par les islamistes. Washington a annoncé le déploiement de 275 soldats américains pour protéger l'ambassade à Bagdad. Sur le terrain, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris contrôle des pans entiers du territoire. Aujourd'hui, ils ont lancé une attaque à Bakouba, à 60 km au nord-est de Bagdad, mais les autorités disent avoir repoussé l'assaut. Dans le même temps, les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda ont pris le contrôle d'Al-Qaïm, un poste frontière entre l'Irak et la Syrie.
L'Iran et le groupe 5+1 ont repris leurs négociations à Vienne, en Autriche. Ils essayent de trouver un accord permanent avant la date butoir du 20 juillet. Des entretiens le mois dernier n'ont pas abouti, les parties ne pouvant pas s'entendre sur les détails d'un projet d'accord. La semaine dernière, Téhéran et Washington ont tenu des pourparlers, mais là encore, aucun résultat concret. Les négociations s'intensifient maintenant en vue de trouver un accord, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de Catherine Ashton, responsable de la politique étrangère à l'Union européenne.
Par ailleurs, la Grande-Bretagne veut rouvrir son ambassade à Téhéran 2 ans et demi après l'attaque de la mission diplomatique par des manifestants en colère. Quelques aspects pratiques méritent d'être finalisés, a dit le secrétaire au Foreign Office William Hague. Mais selon lui, le moment est propice pour la réouverture de l'ambassade.
Au moins 8 morts et plus de 80 blessés, c'est le bilan d'un affrontement entre la police et les partisans du leader religieux Tahir ul Qadri à Lahore, dans l'est du Pakistan. L'ancien professeur de droit devenu leader politique vit au Canada, mais a annoncé son retour au Pakistan le 23 juin prochain pour diriger la mobilisation contre le gouvernement. Qadri a condamné l'intervention de la police, disant que rien ne pourra faire obstacle à la révolution lancée par son parti, le Mouvement du Peuple du Pakistan. Considéré comme un leader religieux modéré, il demande au gouvernement de faire davantage pour améliorer le sort des citoyens pakistanais.
Nouvelles frappes aériennes de l'armée pakistanaise dans le nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane. Au moins 15 militants présumés ont été tués ce mardi, indique-t-on de sources officielles. Le bilan de l'offensive lancée depuis dimanche dans le Waziristan Nord s'élève maintenant à 187 morts. Cette offensive intervient une semaine après une attaque des talibans pakistanais à l'aéroport de Karachi, qui avait fait près de 40 morts. Voilà pour le journal. Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe maintenant à la partie magazine de notre émission.
Les États-Unis sont disposés à discuter avec l'Iran d'une stratégie pour freiner la marche de l'État islamique en Irak et au Levant, Morgane.
C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire d'État américain John Kerry. Pour une fois, Washington et Téhéran semblent faire face à une menace commune, la fulgurante progression des insurgés sunnites qui ont pris contrôle de plusieurs villes irakiennes. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University et de Washington.
Il me semble que c'est une occasion magnifique pour les États-Unis et l'Iran de se rapprocher dans un intérêt commun, parce que les États-Unis sont intervenus en Iran pour naturellement changer le régime de Saddam Hussein, que c'était la minorité sunnite, et de restituer le pouvoir à la majorité chiite. Et alors maintenant, les chiites se sentent naturellement sur la menace des sunnites qui arrivent, si on peut dire ça, du conflit de la Syrie, parce que naturellement, il y a une frontière très large, très grande entre la Syrie et l'Irak.
Le gouvernement irakien, lui, pense que le problème est plutôt du côté de l'Arabie saoudite qui, selon ce gouvernement, soutient les insurgés.
Naturellement, le conflit en Syrie. Il y a l'Arabie saoudite et certains des Émirats qui veulent appuyer la renaissance, si vous voulez, des sunnites. Et pour eux, il a été très douloureux de perdre l'Irak parce qu'ils craignent l'influence croissante de l'Iran. Et parce qu'il y aurait l'Iran, il y aurait l'Irak, et après naturellement la Syrie dans un certain sens, certaines minorités au Liban. Et alors ça pourrait présenter des problèmes pour eux, parce que comme nous savons, il y a des chiites dans plusieurs Émirats, et même dans l'Arabie saoudite, dans la Provence orientale où il y a le pétrole. Et alors pour eux, c'est une menace.
L'Arabie saoudite étant une grande alliée des États-Unis, comment Washington pourrait se sortir de cette impasse?
Les États-Unis ont clairement appuyé les chiites en Irak avec la chute de Saddam Hussein, qui était, on peut dire, le leader des sunnites et qui dominait, quoique il était une minorité petite, tout le pays. Et alors, les États-Unis ne peuvent pas permettre ça. Parce que se le permettre signifie qu'on a perdu des milliers de jeunes gens, de soldats, on a dépensé des milliards de dollars, et à la fin, les sunnites sont nouvellement dans le pouvoir. Ça, ce n'est pas possible.
Voilà, c'était Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington. Et il nous parlait de Venise, en Italie.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur la Voix de l'Amérique.
La journée mondiale contre la désertification est célébrée aujourd'hui et 17 juin. Selon l'ONG SOS Sahel, 1 milliard de personnes sont menacées par la désertification dans le monde, dont 180 millions dans le Sahel. Les raisons sont multiples, dérèglement climatique, croissance démographique, mais aussi de mauvaises pratiques culturelles. Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel, explique comment la désertification peut être combattue.
Les efforts doivent être surtout accentués sur la réhabilitation des systèmes de production agricole. Et la ceinture verte, nous sommes contents que les objectifs de la ceinture verte, la grande muraille verte, hein, d'ailleurs, se situent sur cette perspective. L'idée n'est pas de constituer un mur face au désert, mais c'est de redensifier dans l'ensemble des États du Sahel le couvert végétal de manière à créer une agriculture durable, à freiner l'érosion et ensuite à recréer des conditions de production qui sont favorables de manière à assurer la sécurité alimentaire des populations.
Vous évoquez la sécurité alimentaire. Êtes-vous inquiet à l'approche de la soudure ?
Eh bien, tous les ans, nous sommes inquiets à l'approche de la période de soudure parce que chaque année, il y a des régions sahéliennes qui sont victimes à la soit de sécheresse, soit d'inondations, ce qui est parfois un peu paradoxal, hein, puisque dans certaines régions du Sahel, il peut pleuvoir 100 ou 200 mm d'eau en une pluie et il n'y a rien pour retenir. Et cette question-là est toujours critique pour les populations, mais justement, il faut investir pour diversifier les systèmes de production. Il faut permettre aux agriculteurs de pouvoir produire dans des conditions qui sont plus favorables. Et cette année, c'est aussi l'année de l'agriculture familiale, sachant que 90% de la production agricole en Afrique vient de l'agriculture familiale. Il faut permettre aux agriculteurs d'investir durablement sur leurs terres, à la fois en ayant accès au foncier, en réintégrant l'arbre dans le milieu et aussi en intégrant par une approche plus systémique, c'est-à-dire tous les apports de l'élevage en ayant des pratiques aussi qui sont meilleures par rapport aux façons culturales, par rapport au choix des variétés, par rapport à la diversification des productions, de manière à rendre les agricultures paysannes plus résilientes.
Voilà, c'était Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, dans Washington Forum, les insurgés islamistes marchent sur Bagdad et en réponse, les États-Unis envisagent un rapprochement avec l'Iran. Quelle solution après cette dernière crise politico-sécuritaire a frappé l'Irak ? Envoyez-nous vos commentaires et questions sur la page Facebook Washington Forum. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
Le Cameroun a lancé une campagne contre l'excision avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Cette campagne vise l'éradication des mutilations génitales féminines. Michel Joseph.
Dès 5h du matin, Ma Julie pratique secrètement l'excision des fillettes dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé. Une mère est déjà sur place avec sa petite fille de 9 ans. Ma mère m'a emmenée ici pour un traitement. Tout près de l'enfant, on peut voir deux paires de ciseaux et des lames de rasoir dans un plat. Ma Julie dit qu'elle n'utilise pas les lames dans l'après-midi lorsque les températures sont élevées, à cause des risques de saignement excessifs. C'est quelque chose qui a toujours existé dans notre tradition. Nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait. Lorsque vous supprimez ces parties d'une femme, elle restera fidèle à son mari. Ne voulez-vous pas une épouse fidèle ? A-t-elle lancé Amoki Edwin Kinzeka, un correspondant de la Voix de l'Amérique à Yaoundé. Le ministère de la Promotion des Femmes et de la Famille subventionne les exciseuses pour qu'elles arrêtent la pratique. Ma Julie a reçu $100 du gouvernement, mais elle prétend gagner beaucoup plus en un mois. Mes clients donnent un poulet et $10 pour chaque excision. Et maintenant, le gouvernement nous demande de cesser la pratique. Nous n'arrêterons pas. La ministre de la Promotion des Femmes et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, est bien sûr contre ce genre d'argument.
Si vous essayez de discuter avec ceux qui pratiquent, ils vont vous dire, mais ils vont vivre comment ? C'est pour cela donc qu'il faut arriver à leur apprendre à se passer de cela. Et on ne peut pas leur demander de se passer de cela sans leur donner des moyens de survie. Donc il est tout à fait normal de rechercher des financements pour chercher la reconversion de ceux qui pratiquent cet acte.
Environ 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'excision. Les experts médicaux ont montré qu'elle est extrêmement douloureuse et entraîne des conséquences à long terme, dont des difficultés à l'accouchement. Autrement dit, la bataille contre l'excision est loin d'être gagnée, car la pratique est encore très répandue dans plusieurs pays africains.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Il est 19h50 en temps universel, 15h50 ici à Washington. On passe au journal du foot.
Oui, avec Bagassi Koura.
Oui, Bagassi et ses invités et notre envoyé spécial. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir, bonsoir messieurs, dames. En ce moment, Brésil-Mexique est à la mi-temps entre les deux équipes 0-0. L'équipe qui va remporter, il faut le dire, ce match sera qualifiée. Les Brésiliens ont dominé donc cette première rencontre, mais ils ont fait face à une forte résistance mexicaine. Nous avons en ligne notre consultant football, Jules Valentin Gué, à Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Bagassi Koura. Bonsoir à tous.
Oui, les Brésiliens ont sorti le grand jeu, mais ça n'a pas marché parce qu'en face, le Mexique a bien su résister.
Oui, parce que le Mexique a mis en place un dispositif qui gêne énormément les joueurs brésiliens. Déjà que les Brésiliens eux-mêmes aiment souvent aspirer l'équipe adverse par le centre, dont ils jouent très bas. Et les Mexicains ont compris qu'ils ne doivent pas rentrer dans l'entonnoir et qu'ils doivent passer par les côtés. Donc les Brésiliens se dépensent énormément à défendre, puis à faire des longues distances pour attaquer. Je crois que le sélectionneur Scolari va les replacer.
Et pour l'instant, ça a bien marché pour le Mexique, mais c'est un résultat inacceptable point de vue brésilien. Qu'est-ce que vous pensez va se passer en deuxième mi-temps?
Oui, en deuxième mi-temps, je pense que les Brésiliens vont un peu plus poser le jeu, donc essayer de garder le ballon et préparer les actions plus sereinement. Il n'est pas exclu que Hulk, le bulldozer brésilien qui est souvent sur le côté gauche, rentre. Il a la possibilité aussi de faire des tirs de loin. Je crois que ce sont les premiers changements que Scolari va faire.
Voilà. Merci à vous, Jules, à Libreville.
Merci.
Voilà, c'était notre consultant à Libreville, Jules Valentin Ngwe. Il faut le dire, tout à l'heure, l'Algérie, le dernier représentant africain à entrer en lice, est tombé 2-1 face à la Belgique chez Roubaix. Pourtant, ce sont les Fenecs qui ont ouvert le score sur pénalty. Écoutons ce compte-rendu de Manaus de Nicolas Pino.
Et oui, quel dommage, les Algériens nourriront longtemps des regrets sur la pelouse de Belo Horizonte à l'Estadio Mineirao. Après cette défaite 2-1 face à la Belgique, les Algériens avaient pourtant ouvert le score à la 25e minute sur pénalty, un pénalty justifié et transformé par Ferghouli. Alors évidemment, les Algériens ont réussi à tenir jusqu'à la mi-temps et ont commencé à espérer, mais la Belgique petit à petit a renversé la vapeur et s'est ruée sur le but algérien. Et les Fenech ont tout d'abord été rejoints à la 70e minute. Un magnifique coup de boule de Fellaini, l'homme avec la grande chevelure qui a catapulté une tête au fond des filets. On se disait alors qu'un match nul allait peut-être suffire entre les deux équipes. Et non, les Belges ont continué et Mertens qui a offert le but de la victoire à la Belgique. La Belgique qui prend donc la tête de ce groupe H suite à cette victoire. Les Algériens devront vite se reprendre pour pouvoir évidemment poursuivre dans la compétition. Et le prochain match tout à l'heure, ce sera la Russie contre la Corée du Sud. C'était Nicolas Pino depuis le Brésil pour La Voix de l'Amérique.
Alors Bagassi, il faut dire qu'en dehors de ce pénalty, l'Algérie n'avait pratiquement pas marqué lors de ses 5 derniers matchs de Coupe du Monde.
Oui, son dernier but remonte au 3 juin 1986. C'était contre un pays qui s'appelle l'Irlande du Nord. Un but partout. Le but algérien avait été l'œuvre de Jamel Zidane. Aujourd'hui donc, grosse déception côté algérien. Comme nous l'a dit Ibrahim Taharout, il est rédacteur en chef du journal L'Expression à Alger.
C'est vraiment une grosse déception parce qu'on a marqué, mais on a manqué de fraîcheur physique. Et puis, la déception est d'autant plus grande chez les Algériens parce que nous avons pris l'habitude toujours de nous montrer un peu coriaces devant les grandes nations du football. Je rappelle qu'en 82, on a battu l'Allemagne. En 86, on a tenu tête au Brésil. Et en 2010, on a tenu tête à l'Angleterre. Donc on s'est dit, cette fois-ci, même si les Belges, c'est une équipe forte, mais on sera toujours égal à nous-mêmes. Bon, on a mené au score pendant toute une mi-temps, on a été victorieux toute une mi-temps, et puis on a fléchi, on a manqué de fraîcheur physique. C'est vraiment une grosse déception ici à Alger. Aujourd'hui, au stade, il y avait près de 4000 supporters. Mais on a, d'après nos correspondants sur place, on a été un petit peu déçus par les Brésiliens qui supportaient la Belgique. Mais c'est les Colombiens qui nous ont supportés, c'est les Marocains, c'est les Palestiniens, c'est les Tunisiens qui ont supporté les Fennec.
Et c'est aussi tous les Africains qui ont supporté les Fennec. C'était Ibrahim Taharout, il est rédacteur en chef du journal L'Expression à Alger.
Et malgré tout, l'Algérie n'a pas mal joué, Bagassi.
Non, l'Algérie a très bien joué et je pense que l'Algérie conserve encore une bonne partie de ses chances puisque ses prochains adversaires, c'est la Russie et la Corée du Sud qui ne sont pas de foudre de guerre. Donc l'Algérie devrait pouvoir s'en sortir. Mais avant cela, le Brésil et le Mexique ont joué leur première mi-temps et les deux équipes sont à égalité, 0-0.
Il faut dire que c'est un match équilibré, on a deux bonnes équipes, un bon style de foot latino-américain et on s'attend à un autre régal de 45 minutes pour la deuxième mi-temps, Bagassi.
Roger Muntou est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Les États-Unis ont bien débuté leur mondial en dominant logiquement le Ghana. Il ne fallait vraiment pas arriver en retard en première mi-temps. Après seulement 30 secondes de jeu, Dempsey transperçait la défense ghanéenne et ouvrait le score pour les Américains. C'était la fête partout ici aux États-Unis. Mais ce soir, une dédicace à l'équipe américaine. Écoutons John Cougar dans Rock in the USA. They come from the cities and they come from the smaller towns. And beat up cars with guitars and drummers go. Dreams in their heads and very little money in their hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. Blind faith in Jesus, you know that they just might. Rockin' in the USA.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Yemi à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgane Guiriac au micro.
Et Chérubin Dorsil. Merci Tian Wang.
À demain.